À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Mona Ozouf. On me présente généralement soit comme historienne, soit comme philosophe. Je ne suis pas sûre que ces deux définitions me conviennent, mais je pense que ce sera plus clair à la fin de l'émission.
Cinquième épisode, la patrie littéraire. Bonjour, bonsoir Mona Ozouf.
Bonsoir Caroline Brouet.
Puisque vous vous êtes intéressée à nos identités françaises, et je mets volontairement le pluriel, j'aimerais pour cette dernière qu'on parle d'une des choses les plus précieuses qui soit à vos yeux, qui est la littérature. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages consacrés aux livres, aux romanciers, aux romancières que vous aimez, à la littérature. Vous avez réuni un certain nombre de ces livres dans un volume intitulé « Récits au pluriel d'une patrie littéraire », c'est pas moi qui l'invente, qui contient les mots des femmes, les aveux du roman, la muse démocratique sur Henry James, la république des romanciers. Vous avez aussi écrit un livre sur George Eliot, intitulé « L'autre George », à la rencontre de George Eliot. Et j'aimerais, pour entrer dans cet épisode, vous lire un extrait de « Pour rendre la vie plus légère », qui est un recueil d'entretiens sous la direction d'Alain Finkielkraut, des entretiens qui ont été réalisés à France Culture dans l'émission Réplique pour la plupart. Il reprend une citation de vous. « S'asseoir dans une vénérable bibliothèque, à une place qu'on souhaite toujours la même, tant lire est une activité cérémonielle qui exige le respect d'un rituel. Savourez la paix, le silence et la clôture, qui l'espace de quelques heures vous soustrait au vacarme d'un monde agité. Attendre les ombres bienveillantes qui déposent devant vous, comme la promesse du jour, les livres en pile. On peut y voir une image assez ressemblante du bonheur. » Est-ce que vous diriez que, d'aussi loin qu'ils vous en souviennent, vous avez toujours aimé les livres ?
Oui.
Que les livres vous ont, pour reprendre le titre de ce livre, rendu la vie plus légère.
Oui, ça paraît évident, puisque tout ce que j'ai dit de mon enfance, déjà dans nos journées précédentes, montrait l'immobilité de cette enfance et la solitude. Deux caractères. L'immobilité parce qu'on ne bouge pas du même endroit, on ne va nulle part. On reste dans la cour d'école. Dans l'école,
à faire des
dans
tours
la cour
de bicyclette.
Avec les tours de bicyclette. Bon, c'est tout. Deuxième chose, enfance solitaire. Or, dans les livres, et même les livres de l'enfance, les livres dont je me souviens comme mes livres préférés d'enfance, on bouge, on va dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginé visiter, des villes dont on connaît à peine le nom, et on est entouré. Entouré d'une bande d'amis que l'on se fait, c'est... Dans la littérature enfantine, c'est les enfants que l'on rencontre dans ses premiers livres et qui deviennent des connaissances. Donc le monde est peuplé, le monde bouge et change tout le temps. C'est un talisman immédiat pour une enfance que j'ai un peu décrite, le front aux vitres.
Est-ce que vous prêtez des pouvoirs au roman ? Est-ce que ça veut dire que là, vous prêtez des pouvoirs au roman ?
Ben oui, bien sûr. Ben, y a un premier pouvoir qui est le pouvoir de faire croire. C'est-à-dire faire croire qu'on a beau être assis à la table de la cuisine, ça se passe généralement dans l'espace étroit de la cuisine, avec vue sur la cour de l'école, et on a beau être là...
On est ailleurs.
On est ailleurs. On est ailleurs, c'est un tapis volant. On s'envole avec les livres. Du coup, je n'ai jamais douté de ces pouvoirs. Bon, sans évidemment... me le dire explicitement, ben ça a toujours été comme ça.
Vous étiez servi quand vous étiez enfant, faut dire, parce qu'il y avait beaucoup de bibliothèques.
Oui.
Il y avait la bibliothèque de votre père,
oui.
La bibliothèque de votre mère et la vôtre.
Oui, oui, c'était le seul luxe de la maison, vraiment le seul luxe. Et je me demande d'ailleurs toujours comment mes parents, jeunes instituteurs sans fortune, avaient réussi à réunir tous ces livres. La bibliothèque de mon père vouée à la Bretagne, sous ses aspects divers, folklore, grammaire, costume, calvaire, patrimoine, etc. La bibliothèque de ma mère, qui était peuplée de choses diverses. D'abord, la nouveauté littéraire. Elle achetait les prix littéraires, par exemple. Mais aussi l'héritage de l'enseignement de René Guillou, c'est-à-dire les auteurs étrangers. Les Russes.
Les Anglo-Saxons, les Russes, essentiellement.
Les Russes et les Anglais.
Vous aviez dit ça, oui.
Et donc, il y avait Tchekhov, il y avait Tolstoï, Dickens, voilà. Et puis, ma petite bibliothèque qui était faite des livres canoniques de l'enfance.
Claude et Antoinette à la Maison Forestière?
Oui, par exemple. Claude et Antoinette à la Maison Forestière, c'est dire d'ailleurs à quel point, pour moi, l'exotisme fonctionnait dès qu'on était ailleurs que dans la cour de l'école. Parce que Claude et Antoinette à la Maison Forestière, c'est un manuel du cours élémentaire et ça raconte l'histoire canonique aussi d'un petit Parisien qui va se refaire une santé à la campagne chez un oncle qui est garde forestier. Et donc, tout se passe dans une forêt qui suffit à faire rêver. Parce que la forêt, j'y ai jamais mis les pieds. Et donc, pour moi, déjà, cette existence était exotique. Et les noms des villages, même, qui étaient évidemment complètement différents des miens. Non.
Vous l'avez encore ?
Oui, oui, oui. Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé et je l'ai racheté. Il était à la campagne. Je le relis de temps en temps. Mais ça m'enchantait complètement.
Est-ce que vous avez encore les livres numérotés par votre mère?
J'en retrouve, oui, quelques-uns.
Racontez-nous l'histoire de ces numéros.
Oui, c'est assez drôle et c'est à la fois, c'est très émouvant et ça dit très bien, ça dit beaucoup de choses de ma mère. Elle a compris, quand j'ai atteint 10, 11 ans, que ma boulimie était sans remède et qu'il fallait se résigner à me voir lire tout le temps, ce qui ne la gênait pas du tout. Elle était grande lectrice elle-même. C'est ma grand-mère que ça gênait, parce que la lecture était pour elle une activité frivole. Mais bon, cela dit, ma mère s'est dit qu'il fallait quand même peut-être me préserver de lecture à tout va. Elle était pourtant assez libérale, mais il y avait quand même quelque chose, il faut dire aussi qu'il y avait la pression sociale. Surtout, faut faire attention. Et puis les filles ont besoin qu'on ait l'œil à leur lecture. Si jamais elles allaient jeter leur bonnet par-dessus les moulins à la suite d'une lecture un peu excitante.
Olé, olé.
Olé, olé. Donc, bref, elle s'est mise à relire sa bibliothèque personnelle et à écrire sur la page de garde avec un crayon à papier donc qui autorise l'usage de la gomme, ultérieurement, un petit chiffre énigmatique qui allait à peu près de 13 à 20. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'en prenant un livre dans sa bibliothèque, je tombais sur ce chiffre, j'ai cru que c'était des notes, qu'elle notait des copies. Effectivement, ça n'allait pas au-delà de 20, donc on était encore dans l'univers scolaire, comme toujours. Et puis, j'ai fini par comprendre que ce chiffre n'était pas du tout une appréciation sur le livre, mais qu'il était l'âge auquel elle jugeait décent, convenable, que je puisse lire ce livre-là. Du coup, ça m'a évidemment induite en tentation de prendre la liste à l'envers et de commencer par les gros chiffres. Et curieusement aussi, après avoir fait ce travail, elle a tout relu, tous ses livres. Après ce travail, elle a oublié la consigne, ou elle s'est résignée. J'ai jamais beaucoup élucidé le problème avec elle. Je le regrette d'ailleurs maintenant. Pourquoi je lui ai pas posé la question après ?
On est dans votre appartement à Paris, Mona Ozouf. Et j'ouvre grand les yeux et où que je tourne la tête, je vois des livres. Oui. Devant moi, ce sont des Pléiades. À gauche, c'est une bibliothèque avec des livres anciens. Des livres vraiment reliés avec des couvertures de cuir qui sentent le livre ancien. Mais il y en a un peu partout. Comment sont-elles classées, ces bibliothèques, si elles le sont ?
Elles ne le sont pas.
C'est plus simple.
Hélas, elles ne le sont pas, ce qui m'oblige à des recherches quand j'ai besoin d'un livre héroïque. Il m'arrive très souvent d'aller emprunter un livre à la bibliothèque de la rue d'Ulm, dont je sais qu'il est sur mes rayonnages, quelque part. Mais ça me...
Où,
voilà.
Grande question.
Grande question. Donc, oui, les livres sont un manteau rassurant dans les pièces que j'occupe. Il y a quelque chose qui me rassure profondément. C'est toujours la même rêverie de sécurité qu'au début de l'existence. Les livres sont une ressource, et du coup, oui, il y en a partout, c'est vrai, je ne sais plus où ils sont.
Et puis, il y avait eu, dans votre enfance, alors, dès la fin de la guerre, les lettres françaises auxquelles vous étiez abonné, qui vous avaient permis de découvrir des noms que vous n'entendiez ni à la maison ni à l'école, Valérie Larbaud, Nazim Hikmet, Jean Prévost, Faulkner.
Oui. Oui.
Et puis vous nous disiez que vous regrettiez finalement de ne pas avoir pu faire d'études de lettres à cause du latin et du grec, mais peut-être que ce regret a été compensé par l'écriture, et notamment par la proposition, il y a eu les livres, mais aussi par la proposition de Jean Daniel d'écrire dans les pages littéraires du Nouvel Observateur.
Oui, je suis. C'est encore une des rencontres de ma vie que je trouve, des rencontres plaisantes et fécondes. Parce que c'est vrai que ça, écrire pour les pages littéraires du Nouvel Observateur m'a donné, je crois, m'a fait progresser. Parce que dans l'espace du journal, on est quand même obligé d'écrire avec des contraintes très fortes, mais des contraintes qui sont fécondes. Il faut aller à l'essentiel. Il faut renoncer à des tas de choses. Il faut élire aussi des tas de choses.
Ces articles, il y en a eu beaucoup. Ils ont été réunis dans un gros volume chez Gallimard, dans la collection Blanche, intitulée « La cause des livres ». Est-ce que c'est encore votre livre préféré ?
Oui, absolument. C'est mon livre préféré, d'abord parce que c'est un livre vagabond, étant donné que les articles qui sont réunis sont des articles qui m'ont été imposés par l'actualité, par les commémorations littéraires, par l'anniversaire de Voltaire ou de Rousseau, etc. Et donc, on se promène beaucoup. Et on peut prendre le livre à n'importe quel... au début, à la fin, au milieu, on peut se promener dans ce livre. C'est une promenade. Et c'est une promenade en compagnie des grands esprits de la littérature française. Il y a d'autres livres que ceux des grandes œuvres, mais il y a quand même beaucoup de livres des grandes œuvres littéraires françaises dedans. Donc c'est une promenade agréable avec des gens de bonne compagnie. Et donc...
C'est vos copains, vos autres copains.
J'ai mes préférences. J'ai quand même mes préférences. Mais effectivement, c'est une promenade amicale, globalement.
Dans vos préférences, il n'y a pas d'ailleurs que de la littérature française, puisque je crois que pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais pendant longtemps, vous disiez que votre roman, alors préféré, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais disons celui qui a vraiment changé votre vie, c'était Portrait de femme d'Henry James.
Oui.
C'est encore vrai ?
Oui, j'étais un peu fatiguée d'Henry James après l'avoir beaucoup, beaucoup fréquenté, après avoir écrit un livre sur Henry James, qui de tous mes livres est le livre le moins lu et le plus disgracié, si on entend par disgracié, il a rencontré une grande indifférence du public français, livre qui n'a pas été lu. Du coup, moi, je l'aime aussi pour ça. C'est la tendresse des mères pour leur enfant qui est un peu, qui n'est pas comme les autres, tout à fait. Et du reste, il y a une phrase mémorable de Furet, précisément, qui me dit « Mais si tu travailles à quoi en ce moment ?» Et je lui dis « Écoute, je fais quelque chose sur Henry James, la démocratie et la littérature, quelque chose comme ça. » Ah bon ? Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fricotes avec Henry James ?» Et ce fricoter m'est resté dans l'oreille parce que fricoter est un verbe un peu suspect. C'est une mauvaise fréquentation un peu. Qu'est-ce que tu fricotes avec ce... Et du coup, c'était un pas de côté par rapport à ce que j'avais fait en histoire jusque-là et qui n'a pas été si bien, tellement compris de mes amis. Mais moi, j'aime beaucoup James parce que c'est quelqu'un qui... ne demande jamais complètement votre reddition. Il finit son livre, mais on sait que le livre pourrait finir autrement, que lui-même, James, peut imaginer, a parfois écrit plusieurs dénouements, laisse les choses ouvertes, et donc on n'est pas obligé d'adhérer à telle ou telle interprétation du livre. Ça ouvre le champ à une masse de perplexités, pour en revenir aux perplexités, d'interrogations, rien n'est jamais complètement fini ni acquis. Et ça, c'est merveilleux, sans compter qu'il y a chez James un répertoire prodigieux de figures féminines. Une sorte d'éventail féminin extraordinairement variée, entre les femmes fatales, les jolies petites flirteuses américaines, les comédiennes françaises tragiques. Il y a absolument tous les personnages féminins qu'on peut imaginer. Les jeunes filles émancipées, les bonnes camarades, les oiseaux de malheur, enfin tout.
C'est tout un monde.
C'est inépuisable, oui, c'est un monde incroyablement varié.
C'est tout un continent. Et vous l'avez quitté, vous y revenez régulièrement, j'imagine, mais vous l'avez quitté, Mona Ouzouf, pour vous intéresser, même si ça n'a pas été immédiat, mais à une figure que vous avez rencontrée assez tôt aussi dans votre vie, et sur laquelle vous êtes revenu,
oui.
Qui est George Eliot,
oui.
Méconnu en France, George
oui,
Eliot.
Oui, oui, absolument méconnu.
Mais grâce c'est à vous, un peu moins méconnu.
Un des héritages de ma classe de 3e avec René Guillou. C'est elle qui avait dit qu'il fallait lire Le Moulin sur la Flosse parce que l'héroïne nous dirait quelque chose. Et effectivement, le portrait de cette jeune fille rebelle, de la manière dont elle se débat dans la vie qui lui est faite, dans la vie très conformiste qui lui est faite, oui, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait exaltant à lire pour une jeune personne. Mais j'ai découvert, en lisant plus et mieux de George Eliot, que ça avait été une figure extraordinaire. C'est extraordinaire d'ailleurs qu'elle soit tombée dans l'oubli, parce que c'était à la fois une très grande romancière, mais aussi un grand esprit, une femme qui possédait plusieurs langues parfaitement, qui avait lu la philosophie allemande, et qui avait fait tout ça dans un petit collège, dans le collège de Coventry, dans un environnement tellement provincial qu'on se demande comment elle a pu éclore de ce milieu. Non, c'est quelqu'un d'absolument étonnant. Et j'avais aussi envie de faire un petit parallèle avec George Sand, puisque les deux romancières, qui d'ailleurs s'appréciaient, enfin c'est Eliot qui est, évidemment vient après Sand, qui admire beaucoup George Sand, et donc j'avais envie de faire un parallèle entre ces deux romancières qui toutes les deux s'abritent sous un nom masculin pour mieux faire entendre leur voix.
Est-ce qu'il y a dans toute cette recherche qui a été la vôtre sur la littérature et dans ce vagabondage dans les livres, aussi bien d'ailleurs français que étrangers, Mona Ouzouf, est-ce qu'il y a la quête d'une singularité française? Ou est-ce que vous avez trouvé une forme de singularité française? Je reviens toujours à cette idée que vous travaillez quand même sur les identités françaises, sur l'universel et le particulier. Alors est-ce qu'en France, la littérature a ceci qu'elle est particulière?
Écoutez, elle est particulière d'abord parce que c'est pas très difficile de montrer en France la royauté de la littérature, qui est encore perceptible. Elle est très abîmée, on dira, elle est très, très contestée, mais malgré tout, il y a comme une affinité entre le génie français et la littérature. Alors c'est vrai, par exemple, quand Mallarmé dit que tout en France est fait pour aboutir à un livre, ça se voit encore chez Mallarmé, mais ça se voit aussi dans la création de l'Académie française. Ça se voit dans le fait que la littérature est aussi une affaire d'État. Donc il y a une consanguinité, je dirais, entre la littérature et la France, et c'est une, effectivement, des singularités françaises. Ça est probablement aussi la visibilité des femmes. La France est le pays où, quand les étrangers mettent le pied, ils sont immédiatement frappés par le fait que les femmes sont partout. Il n'y a pas de lieu séparé. Pour elles, la différence entre l'Angleterre et la France sur ce plan, il y a beaucoup de gens qui traitent ce thème de la séparation des sexes en Angleterre, des lieux réservés, alors qu'en France, il y a une sorte de mixité presque dans tous les domaines et qui, au fond, fait la séduction sociale de la France. Vous me direz qu'il y a peut-être quelques niaiseries à développer ce thème, quelques satisfactions, mais je ne crois pas. Je crois vraiment que quand on parle de ces deux thèmes, la présence de la littérature, la présence des femmes, on touche à quelque chose qui est particulier. J'ai parlé de séduction sociale, qui fait quelque chose comme la gaieté, la légèreté de l'esprit français. Bon, quelqu'un comme Valérie Larbeau, par exemple, l'illustrerait parfaitement ça. Une sorte de, oui, d'aménité des mœurs qui est particulière au génie de notre pays. Vous allez me dire que c'est une vision absolument irénique et euphorique et qu'elle mériterait tant de correctifs, surtout aujourd'hui. Je pense quand même que quelque chose comme cela subsiste et qu'il faudrait peut-être y veiller de façon plus soigneuse.
Et dans cette littérature française, il y a la poésie.
Oui.
La poésie, aujourd'hui, en France, n'a pas... C'est pas si bonne presse, mais elle n'est pas peut-être connue à sa juste valeur. Elle reste justement assez scolaire. Oui. Vous en lisez beaucoup, et depuis très longtemps.
Oui, j'en lis et j'en apprends surtout.
Vous en apprenez.
Mais pour en revenir, c'est aussi un peu la même chose. Ce que je dis de la littérature française, de la mixité, etc., illustre, allons jusqu'au bout, un certain bonheur de vivre, un certain assentiment au monde qui nous entoure. Or, la poésie, c'est le domaine de l'acquiescement. On ne peut pas, je crois, apprendre un poème ou lire des poèmes sans dire oui à ce qu'il raconte. Il n'y a pas de place pour la polémique dans le poème. On oublie dans le poème l'argumentation. Elle n'existe même presque pas. On écoute de la beauté. On reçoit. On se fait réceptif à la beauté. On ne discute pas avec un poème, un des beaux poèmes qu'on a envie de s'approprier soi-même et d'apprendre. Donc il y a quelque chose dans la poésie. Là encore, vous allez me dire que c'est un thème récurrent.
J'ai rien dit, moi.
Vous
prêtez des intentions.
Vous n'avez rien dit, mais c'est moi qui me fais des objections au passage.
Oui, laisse-les faire,
on pourrait dire que voilà, que c'est un thème un peu naïvement consolant, mais je crois que c'est quelque chose de fondamental dans la poésie. C'est l'espèce d'assentiment à ce qui vous est donné. Et c'est pour ça qu'il est tellement important, je trouve, d'apprendre. Pas se contenter de lire le poème, mais de l'apprendre. J'avais eu une petite controverse avec mon vieil ami Michel Serres, quand Michel Serres avait publié ce petit livre qui s'appelle « Petite poussette », et où Michel Serres fait l'éloge un peu exalté de cette époque de notre histoire où une petite fille peut tenir au bout de ses pouces la poésie entière, externalisée, disait Michel Serres. Et moi, c'est quelque chose qui me fait bondir, la poésie externalisée. Ça veut dire que Petite Poussette, en effet, peut aller consulter, Lorca, ou n'importe quel poète qui est très loin d'elle, mais elle peut y avoir accès. Mais c'est une vision, je trouve, qui ne correspond à rien de réel. C'est pas comme ça qu'on a accès à la poésie. On a accès à la poésie en se l'appropriant, en l'apprenant par cœur. J'irais même jusqu'à dire en la copiant et en la recopiant. Moi, j'ai copié quantité de textes quand j'étais enfant ou adolescente. Et c'était des livres que j'avais à la maison. C'est pas des copies de quelque chose que je voulais garder mais qui n'était pas chez moi. J'avais ces livres. Mais j'en recopiais quand même dans des cahiers. Très très bien tenu, avec la plus belle écriture possible, je recopiais les passages qui m'enchantaient. Mes petites filles sont là devant quand elles retrouvent un de mes cahiers, elles sont stupéfaites. Quand je leur dis que j'avais les livres à la maison, parce que pour elles ça n'a même pas de sens, et ça évoque tout de suite, mais tu n'avais pas de photocopieuse. Ou non, j'avais pas de photocopieuse, mais je m'appropriais les textes en les recopiant lentement. Il y a là, si vous voulez, dans la poésie, il y a tout un éloge de la lenteur et de la patience qui est très peu compris par une génération qui vit dans l'impatience et dans la vitesse et qui fait de la lecture quelque chose comme un prélèvement de l'information utile Alors ça, c'est tout le contraire, évidemment, de la poésie. Mais c'est pour ça que la poésie est tellement consolante, elle est une sorte de réconciliation avec soi-même.
Vous en avez lu quand vous étiez à l'hôpital en 2021? Vous avez perdu le goût de lire à ce moment-là?
Non, j'ai perdu totalement le goût de lire à l'hôpital. Bon, il y a des raisons très simples. Une chambre qui donne sur un mur, où il n'y a pas la moindre lumière et j'ai de mauvais yeux. Et puis, je ne sais pas, une sorte de découragement. Pourtant, les livres m'arrivent sous forme de paquets que ma fille vient me poser à la porte de l'hôpital. Mais j'ai perdu, j'ai eu une sorte de désamour du livre pendant ces 6 semaines d'hôpital, jusqu'au jour où dans un paquet que ma fille m'apporte, il y a un livre qui fait tilt, qui est un livre d'un auteur qu'à ma honte, je ne connais pas.
Vous ne connaissiez pas à l'époque, en tout cas.
Oui, que je ne connaissais pas à l'époque. Livre d'un certain Robert Bobert, dont j'oublie qu'il a été le complice de Georges Perec dans des documentaires fameux, etc. Mais je l'ai oublié. Et ce livre porte un titre qui me fait, voilà, qui m'épate, enfin qui m'étonne. Ça s'appelle « Par instant, la vie n'est pas sûre ». C'est une vérité que j'éprouve, en effet, à ce moment-là. La vérité, par instant, la vie n'est pas sûre. Mais la phrase est étrange. Je m'enfonce dans le livre. J'adore le livre, aussi pour une écriture fragmentaire et une écriture où je retrouve des admirations anciennes, comme quelques poètes que j'aime par-dessus tout et qui sont aussi les poètes préférés de l'auteur en question, ce certain Robert Bobert. Et puis là-dessus se produit un deuxième petit miracle. Je sors de l'hôpital. Quelques semaines après, Vincent Josse fait un atelier de l'histoire.
Sur France Inter.
Sur France Inter, me demande d'y participer. Et j'apprends que la personne qui a voulu que je sois son invité est un certain Robert Bobert, dont je viens de découvrir avec ravissement le livre. Donc, dans l'espace de 2-3 semaines, je fais connaissance d'un livre qui me bouleverse, d'une sorte de rencontre d'amitié, et je m'aperçois que je suis invité par cet auteur. Pourquoi ? Je n'en sais rien, je n'y comprends rien. Mais ça ouvre effectivement, à la fois, c'est les petites boucles du destin dont j'ai déjà parlé avec vous. C'est un nouvel exemple, miraculeux.
Et c'est sur ce miracle qu'on peut s'arrêter ?
Oh oui.
Vous aimeriez bien.
S'il y en avait d'autres, ce serait pas mal.
Il y en aura d'autres, on l'espère pour vous.
Merci beaucoup.
Un grand merci, Mona Ozouf. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Yvan Turc, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.